Ensemble, Luc 12, 35 à 48. Luc 12, 35 à 48. Il est dit ici, c'est Jésus qui parle et qui dit « Que vos reins soient sains et vos lampes allumées, et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se ceindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ces serviteurs s'il les trouve veillants. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Pierre lui dit, « Seigneur, est-ce à nous ou à tous que tu adresses cette parabole ?» Et le Seigneur dit, « Quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable ? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. » Mais si ce serviteur dit en lui-même, « Mon maître tarde à venir », s'il se met à battre les serviteurs et les servantes, à manger, à boire, à s'enivrer, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Et il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les infidèles. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui ne l'ayant pas connu a fait des choses dignes de châtiment sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné et on exigera davantage à celui à qui l'on a beaucoup confié. On va s'incliner dans la prière. Seigneur, merci encore pour la parole de Dieu. Merci pour cet évangile de Luc. Merci pour tout ce que tu nous as donné par ces hommes que tu as inspirés par ton esprit. Père, nous sommes reconnaissants et Père, nous prions que tu veuilles encore nous stimuler dans la foi, nous encourager, nous aider à marcher avec toi, à renoncer à nous-mêmes et à te glorifier par nos vies. Seigneur, parle-nous et fais-nous du bien, s'il te plaît, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, l'apôtre Pierre, ici, va dire à Jésus, donc c'est le verset, je le cherche, 41. Il va dire, est-ce à nous ou à tous que tu adresses cette parabole ? Et donc, Pierre savait que des fois le Seigneur parlait à certains, des fois il parlait à tous, aux uns, aux autres. Donc, il pose la question, il se demande. Et ça, c'est toujours vrai. La parole de Dieu, elle nous parle dans différentes époques et de différentes manières. Et elle s'adresse tantôt aux uns, tantôt aux autres, tantôt à tous. C'est constamment comme ça, toutes les Écritures en fait. Hein. C'est toujours vrai. Par exemple, quand Dieu dit « Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal », est-ce qu'il vous parle à vous ? Est-ce qu'il vous dit à vous ? On va dire « Mais non ». Non, il le disait à Adam et Ève. Par contre, il y a toujours un enseignement, toujours une vérité, toujours quelque chose que l'on peut recevoir par n'importe quel verset, n'importe quelle parole, et même ce verset-là, qu'est-ce que ça nous enseigne ? Ça nous enseigne que la désobéissance, ça mène à la mort. Si je désobéis, eh bien ça me conduit à la mort. Alors c'est vrai pour le commun des mortels, pour tout le monde, pardon, celui qui pêche mourra, c'est ce que dit la parole de Dieu. L'âme qui pêche, elle mourra. Et ça veut dire une séparation, séparation de Dieu pour l'éternité, séparation physique et séparation spirituelle. Mais c'est vrai aussi pour nous, enfants de Dieu. Si on a reçu le Seigneur, la désobéissance, elle conduit à la mort. C'est toujours vrai. Si je désobéis, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, je me coupe spirituellement de mon Père Céleste. Je reste un enfant de Dieu. Mais ma communion avec Dieu, elle s'altère. Hein, et je suis comme un mort spirituel. Donc, c'est aussi une vérité pour nous. Et donc, il faut regarder à qui cela s'adresse. Et puis après, en tirer tout l'enseignement pour nous-mêmes. Je prends un autre verset. Quand Dieu dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » À qui Dieu s'adresse là ? À Josué. Donc, il est en train de dire à Josué cela. Voilà. Attache-toi à la parole de Dieu, serre-la dans ton cœur et tu réussiras. Tu réussiras. Tes projets, etc., tes entreprises réussiront. Donc, il le dit à Josué. Mais c'est une vérité qui est intemporelle. Elle est pour tous, en fait. Hein. Si on veut eh bien, avoir un sentier qui s'aplanit et ne pas faire d'erreur, eh bien, il faut se plonger dans les Écritures et vivre sa vie avec Dieu et se conformer à ce que Dieu dit. Donc c'est une vérité pour tous. Maintenant, quand Dieu dit, verset 35 de Luc 12, verset 35, quand il dit « Que vos reins soient sains, que vos lampes soient allumées », à qui s'adresse-t-il ? Alors, premier réflexe serait de dire bien, aux disciples, hein, puisque les disciples sont là, ils sont tous en train d'écouter, donc aux disciples, donc à l'Église, donc à nous. Et je dirais oui et non. Oui et non. Alors d'abord, il y a plusieurs éléments qui doivent réfléchir. Quand vous prenez ce texte de Luc 12, d'abord au verset 36, il va dire « Et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. » Donc, Jésus prend l'exemple d'un maître qui revient des noces. Les noces. Tiens, c'est intéressant ça. Quand on prend les noces, notamment dans le Nouveau Testament, c'est les noces de l'agneau. Il n'est pas en train de partir aux noces. Non, il revient des noces. Et quand vous regardez la parole de Dieu, eh bien, nous sommes l'épouse. L'épouse de Jésus-Christ. Hein. Et nous allons participer aux noces. Hein. Si vous êtes enfant de Dieu et si vous faites partie de l'épouse, eh bien oui, vous serez avec le Seigneur Jésus et vous allez vivre les noces en tant qu'invité d'honneur, hein, puisque l'épouse elle-même, nous allons être unis à notre Seigneur Jésus-Christ. Si nous sommes nés de nouveau, des vrais enfants de Dieu, c'est sûr. Maintenant, est-ce qu'il est possible d'être à la fois l'épouse et en même temps ces hommes qui attendent l'époux, le maître, qui revient des noces? Et non, c'est pas possible. C'est un premier élément. Un deuxième élément. Jésus, ensuite, va parler du voleur, au verset 39. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur va venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Quand vous prenez le voleur dans les évangiles, à chaque fois, ça fait référence à Jésus qui revient comme un voleur. Donc c'est touchant aussi. Et comme ce passage, on peut le mettre avec Matthieu 24-25 en parallèle, hein, et on retrouve la même trame, voilà, ça nous donne un deuxième élément. Le voleur, Jésus revient comme un voleur, c'est ce qu'il est dit dans Matthieu 24-25, hein, il va surprendre la terre, hein, et ils n'auront pas le temps de réagir. C'est un peu tout ce que nous dit ce passage. Si on avance encore un petit peu, il est dit, donc il y a Pierre qui va poser cette question, est-ce à nous ou à tous que tu adresses cette parabole ? Jésus ne va pas répondre directement à la question de Pierre, mais il va prendre une autre histoire et il va raconter l'histoire de serviteurs qui sont fidèles et de serviteurs qui sont infidèles. Et là, il va dire que les serviteurs infidèles vont être mis en pièces. Mis en pièces, ils auront leur part avec les infidèles. Les uns seront battus d'un grand nombre de coups, les autres de moins de coups, mais ils seront quand même battus. Quand même battus. Et là, on se dit, mais est-ce que ça, c'est l'épouse de Christ ? Est-ce que c'est possible ? Et non. Il n'y a rien dans les Écritures qui enseigne que l'épouse sera battue, hein, et rejetée, hein, avec les infidèles. Non. Donc, vous avez plusieurs éléments là où vous dites, ah, peut-être il faut remettre dans le contexte. À qui Jésus est-il en train de parler ? En fait, il est en train de parler aux croyants qui seront dans la tribulation. Et vraiment, ce passage est à mettre en parallèle avec Matthieu 24-25. Là où Jésus ouvre une parenthèse, hein, parce que les disciples vont lui poser une question. « Seigneur, quand cela arrivera ? Et ton avènement, hein, ?» Il pose la question. Et là, Jésus se met à les enseigner. Matthieu 24, vous déroulez. Matthieu 25. Et vous arrivez à la fin de Matthieu 25, premier verset du chapitre 26, lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il prend une autre conversation, ou il fait autre chose. Et donc, il y a une parenthèse. On ouvre et on ferme. Et là, on est dans la tribulation. Et ce passage, eh bien, concerne aussi la tribulation. Où là, eh bien, dans la tribulation, il faudra être vigilant, hein. Et il faudra faire attention parce que, eh bien, si on ne fait pas ce qu'il faut et on ne s'attache pas au Seigneur, si on n'a pas de l'huile dans ses lampes, hein, si on ne gère pas bien ses talents, si on ne fait pas attention aux plus petits de ses frères, hein, c'est Matthieu 25, hein, alors, eh bien, on peut être à la fin jeté avec les infidèles. L'Église sera déjà enlevée au ciel. Néanmoins, comme je vous l'ai dit, on regarde à qui ça s'adresse, et puis après, on reçoit l'enseignement pour nous-mêmes. Parce que toute la parole de Dieu est bonne pour nous, quels que soient les âges, que ce soit ce qui a été dit à Adam et Ève, ce qui a été dit à Moïse, aux Juifs, ou ce qui a été dit donc aux croyants de la tribulation. Et ici, eh bien, Jésus est en train de parler à ses disciples. Et bien sûr, ses disciples n'ont pas une vision complète du plan de Dieu. Mais eux, ils reçoivent bien ce qu'il est en train de leur dire. Hein. Et il est en train de dire, oulala, il faut être vigilant dans l'attente du Seigneur, être fidèle, il faut que je fasse ce qu'il faut. Et nous, de la même manière, eh bien, on peut recevoir ce que le Seigneur nous dit et il s'adresse aussi à nous. Il y a trois choses que l'on peut retenir pour nous ce matin. La première, c'est l'importance de veiller. J'aimerais relire verset 36. 36 à 38. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent leur maître, que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se ceindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la deuxième, à la troisième veille, heureux ces serviteurs s'il les trouve veillants. Et c'est ce mot « veillant » que j'aimerais mettre un peu en exergue, « veillant ». Quel que soit le siècle où nous sommes nés, où nous naissons, eh bien, dans tous les temps de l'histoire des hommes, Dieu encourage les croyants à veiller. Et c'était vrai pour les Juifs dans l'Ancien Testament, Moïse va leur dire « veillez ». Tout à l'heure, on a parlé de Josué. Josué va dire au peuple, « Veillez donc attentivement sur vos âmes afin d'aimer l'Éternel, votre Dieu. » Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que notre cœur s'éloigne facilement du Créateur, mais naturellement. On glisse, on s'éloigne, on est distrait, ou on s'apesantit, parfois on est séduit, et hop, on s'éloigne petit à petit de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il y a une puissance en nous, et je ne parle pas du Saint-Esprit là, c'est la chair. La chair est aussi puissante, elle est aussi en nous, et chaque matin elle est là, et chaque jour, elle veut tirer pour nous éloigner de Dieu, à chaque fois. Et si on n'est pas volontaire, déterminé, persévérant, constant, comme un soldat qui est sur la brèche là, qui fait attention, comme un athlète qui veut remporter la course, comme un serviteur qui veut être fidèle à son maître, hein, qui ne veut pas défaillir. Si nous ne sommes pas comme cela, eh bien, on se relâche. On baisse la garde, on lâche prise, on abandonne ce qui aurait pu être une bonne habitude ou ce qui a été une bonne habitude. Et aussi, on peut dire, on va se mettre à refuser la difficulté. Ensuite, oh, c'est un peu dur ça. Oh mais non, il n'y a pas plus facile. On va refuser le sacrifice. Le Seigneur nous demande de faire... Oh non, c'est trop dur ça. Hein. Et on se relâche. C'est pour cela que le Seigneur nous dit « veillez ». Marc 14, verset 38. Marc 14, verset 38. Ici, le Seigneur nous dit « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Et si on veut repousser la tentation, Eh bien, le Seigneur nous dit, il faut veiller et prier. Parfois, on se demande, mais pourquoi je suis si faible? Pourquoi j'arrive pas à résister à certaines tentations, à certains péchés, à certaines choses qui me séduisent? Pourquoi je suis par terre? Ou souvent par terre? Pourquoi c'est si dur de dire non au péché? Non, je ne le ferai pas. Pourquoi c'est si dur? Pourquoi on est si chancelant? Et Dieu nous donne la clé ici, une clé pour la victoire. Il dit, veillez et priez. Si Christ est resté fidèle à son Père en Gethsémané, c'est parce qu'il a veillé, il a prié. Si les disciples se sont tous enfuis, et même si l'un l'a renié, c'est parce qu'ils se sont endormis. Ils n'ont pas veillé, ils n'ont pas prié. 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. 1 Pierre 5, et verset 8, il est dit ici, « Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Là encore, une exhortation à veiller, et la raison, c'est que nous sommes surveillés par le diable. Il nous dit « Veillez » parce que le diable, lui, il vous surveille. Et il ne va pas s'occuper de celui qui veille, de celui qui lutte, de celui qui... Voilà, il sait que il ne va pas y arriver. Donc, il ne s'occupe pas forcément de lui, premièrement. Mais il va s'occuper de celui qui a rangé sa Bible, il ne sait plus où, parce que ça fait longtemps qu'il ne l'a pas ouverte. Celui-là, il va s'en occuper. Parce qu'il ne veille plus, il ne veille plus. Donc, c'est une proie facile. Il s'occupe de celui qui est faible spirituellement. Vous savez, quand il y a un prédateur et qu'il voit un troupeau, eh bien, il ne va pas se jeter dans le troupeau. Hein. Souvent, le meilleur, c'est d'attendre qu'il y ait une brebis qui soit un peu à l'écart. Et là, boum, une bouchée, terminé. Eh bien, c'est ça, c'est la même chose. Hein. Si le diable, ici, est comparé à un lion, c'est qu'il cherche sa proie, celle qui est faible, celle qui est à l'écart, celle qui lit plus, celle qui prie plus, celle qui s'éloigne du troupeau. Et il cherche à la dévorer. Être veillant, ça c'est la première recommandation à prendre pour nous, pour notre texte. Est-ce que nous veillons? Est-ce que nous sommes comme un soldat qui monte la garde et qui attend et qui ne veut pas s'endormir? Verset 35, de nouveau. Il dit « Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. » Donc, deuxième recommandation, « Que vos reins soient sains. » À l'ère du Nouveau Testament, ils étaient tous avec des longues robes, hommes et femmes. Hein, et quand on voulait travailler, œuvrer, eh bien, on se saignait. On prenait une ceinture et on serrait pour ne pas avoir le mouvement ample et gênant de la robe. Et donc, ce cindre, eh bien, ça signifie œuvrer, travailler, servir le Seigneur. C'est ça. Saignez-vous, hein, que vos reins soient sains, c'est servez. Soyez à l'œuvre, soyez actifs, soyez en train de servir. Réveillez pour Dieu. Et il n'y a que deux états possibles. Soit on est à l'œuvre, en train de travailler pour le Seigneur, soit on a détaché sa ceinture, hein, et puis voilà, on est tranquille et on ne travaille pas. On n'œuvre pas. Inactif. 1 Corinthiens 15, verset 58. 1 Corinthiens 15, et verset 58. Il dit ici, « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Et cindre ses reins, eh bien, c'est pour chacun d'entre nous. C'est Dieu qui nous dit, soyez fermes, soyez inébranlables et travaillez. Travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Progressez même dans votre travail pour l'œuvre du Seigneur. Et ce verset, il peut nous parler et il peut ne pas nous parler du tout. Selon que, eh bien, notre ceinture est bien à notre taille, serrée, ou bien elle est posée quelque part et on s'est relâché. Qu'est-ce que je fais pour le Seigneur? Est-ce que j'œuvre pour lui? Est-ce que je suis actif, disponible, dans un service concret? Est-ce qu'on peut dire « je travaille pour le Seigneur » Et probablement, je me dis, quand Dieu regarde toutes ses églises, eh bien, il regarde ses enfants et il en voit certains avec la ceinture bien serrée et puis il en voit d'autres avec la ceinture sur le porte-manteau, bien tranquille. Hein, c'est comme ça qu'est l'église. Comprenez, travailler pour le Seigneur, ça ne signifie pas qu'on n'est pas actif dans plein d'autres domaines. Hein. Certains sont très actifs dans beaucoup de domaines. Mais pour ce qui concerne les choses de Dieu, ben là, c'est plutôt l'inactivité. On ne fait pas grand-chose. Alors, eh bien, qu'est-ce que c'est faire l'œuvre de Dieu? Les disciples, un jour, ont posé la question au Seigneur. Ils ont dit, « Seigneur, que devons-nous faire pour faire l'œuvre de Dieu ?» Qu'est-ce qu'il leur a répondu, vous vous souvenez? L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez. Voilà, c'est prendre à contre-pied une personne. Hein. Et avant de développer, eh bien, j'aimerais dire, c'est d'abord de croire. Hein. On ne peut pas servir le Seigneur si on ne croit pas. Ça, c'est la première chose. Hein. C'est vivre la foi. Et pour aller plus loin, quand on est au Seigneur, quand on l'a accepté, quand on a cru, eh bien, Dieu veut qu'on mette en œuvre notre salut. C'est ce qu'il dit, hein. Il dit dans Philippiens 2, 12, on peut le prendre, Philippiens 2 et verset 12, il dit « Ainsi mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. » Donc, qu'est-ce que ça signifie? Travailler à votre salut. Ce n'est pas qu'il faut travailler pour mériter le salut. Non, là, il est en train de s'adresser à des croyants, à des enfants de Dieu qui sont sauvés. Mais il leur dit maintenant, il faut mettre en œuvre votre salut. Hein. C'est que vous viviez la vie chrétienne. Vous puissiez, eh bien, c'est un petit peu comme une mine. Vous savez, une mine, on va creuser pour aller chercher des pierres précieuses, pardon, des trésors. Hein. Eh bien, c'est ça, le croyant, quand il a Jésus-Christ, il a une mine. Mais maintenant, il faut qu'il aille creuser, qu'il aille vivre sa vie avec Jésus-Christ, hein, qu'il développe cette communion avec lui pour trouver tous ses trésors et mûrir et se sanctifier, en fait. Hein. Donc, l'œuvre de Dieu, c'est d'abord, eh bien, croire. Et puis, ben, avancer dans la vie chrétienne, développer sa vie avec Dieu, connaître sa Bible, connaître son Seigneur, mûrir. L'œuvre de Dieu commence par là. Ensuite, servir, eh bien, c'est aussi servir, bien sûr, dans des tâches, pour faire des choses. Et le service, il commence par des tâches humbles. On veut souvent servir... on voit les grandes choses, quoi. On se dit, ah ben moi je veux servir, je veux faire ça, je veux faire ci, je veux faire là, voilà. Mais on commence à servir dans les tâches humbles, toujours. Ça commence toujours comme cela. Certains voudraient prêcher, hein, mais avant de prêcher, il faut d'abord servir dans des tâches humbles. Et Dieu n'appelle pas tout le monde à prêcher. Et ce qui est certain, c'est que Dieu ne place personne à une place de responsabilité s'il n'a pas accepté avant des tâches ingrates, des tâches humbles, des tâches invisibles, cachées. C'est toujours comme ça. Celui qui s'élève sera abaissé. Celui qui s'abaisse sera élevé. Et vous connaissez ce verset, « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes ». Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et donc, Dieu commence par regarder eh bien, la fidélité des uns et des autres dans des tâches qui sont humbles. Je veux servir le Seigneur. Faisons ce que les autres n'ont pas envie de faire. Voilà. Commençons par là. Personne n'a envie de le faire. Je le fais.
je le fais.
Alors j'ai envie de dire, nettoyons l'église. Ah, c'est du concret là, hein. Le planning est souvent vide, hein. Allons-y, je veux servir. Allons-y, servons le Seigneur. Soyons volontaires pour des tâches que personne ne voit. On ne réfléchit pas, mais pour que les choses aillent et se mettent en place, eh ben, il faut une certaine organisation, hein. Il faut que les gens le fassent, hein. Et si personne ne le fait, eh ben, on le fera quand même. C'est toujours plus difficile. Alors que si tout le monde fait, alors eh bien, c'est beaucoup plus léger. Un autre verset, Romains 12, verset 16. Romains 12, verset 16. Il dit, ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Et c'est ça le chemin, en fait, du service. C'est se laisser attirer vers ce qui est humble. Et quand on fait ça, eh bien, après, Dieu est libre. Libre de nous conduire dans les œuvres qu'il a préparées d'avance, dans ce qu'il a prévu pour nous, et d'autres choses, probablement. Ensuite, servir le Seigneur, voilà, travailler, hein, ceindre ses reins, c'est aussi faire quelque chose où il n'y a pas forcément beaucoup de volontaires, hein, c'est la prière. Alors, il y a plusieurs versets, mais on va en prendre un, 1 Timothée 2 et verset 1. 1 Timothée 2 et verset 1 à 4. Il dit ici, j'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Quand on lit ce passage, et c'est bien, hein, souvent nous sommes négligents sur le fait qu'il nous faut prier pour les autorités. Dieu nous le dit, c'est ça qui permet que l'on vive une vie paisible et tranquille. Et je sais que moi-même, je ne le fais pas suffisamment. Il faut qu'on prie pour les autorités. Mais le texte ne dit pas que ça. Hein, parfois, on se dit, c'est ce que dit le texte. Mais non, le texte ne dit pas que ça. Avant, il dit qu'il exhorte à prier pour tous les hommes. Donc, les autorités, c'est une partie. Pour mener une vie paisible et tranquille, c'est une partie. Mais il dit pour tous les hommes. Et il termine en disant, parce qu'il veut que tous soient sauvés. Donc là, ça fait du monde, hein. Ça fait du monde. Dieu veut sauver tous les hommes, mais ça passe par nos prières, ça passe par nos supplications, ça passe par nos requêtes, par nos actions de grâce, c'est-à-dire que quand on rend grâce, on manifeste que l'on a foi. Seigneur, je te remercie d'avoir entendu ma prière et de ce que tu vas faire. Ça passe par nos prières. Ça veut dire quoi, concrètement? Eh bien, il faut prier pour nos voisins. Il faut prier pour les gens qui sont là, juste à côté de nous. Il faut prier pour elles. C'est important. Jamais un voisin n'est arrivé. « Ah, mais je vous vois partir le dimanche matin. Vous êtes parti à l'église, n'est-ce pas? Ben, j'ai accepté le Seigneur hier soir. » Je n'ai pas lu encore une histoire comme ça. Parce que là où vous êtes le témoin. C'est vous qui devez prier là. C'est vous qui devez rayonner là. Et travailler à l'œuvre du Seigneur, eh bien, c'est travailler au salut des âmes qui sont autour. C'est prier que Dieu fasse les miracles que nous ne pouvons pas faire. On ne sauve pas. On ne peut pas sauver. Mais on peut demander à Dieu qu'il sauve. Et là, lui, il peut agir. Il en a le pouvoir et la puissance. Alors, eh bien, je pose la question, est-ce que vous priez régulièrement pour plusieurs personnes? Est-ce que vous priez régulièrement pour plusieurs personnes? parce que vous voulez, vous demandez le salut de l'âme de ces personnes. Comme ce monsieur âgé là, qui était du côté d'Aix, hein, je ne me rappelle plus trop son nom, mais qui avait une liste d'une centaine, c'est ça ? 500. 500 noms pour lesquels il priait. Et il est mort à 80 ans passés, je pense. 96 ans. Imaginez ça. Un jour, il s'est dit, qu'est-ce que je peux faire pour le Seigneur ? Ah, je vais prier. Et il a noté un nom. Et il a prié pour cette personne. Deux noms, trois noms, 100, 500 noms à 96 ans. Et il priait tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et bien lui, il a œuvré. Hein? Ça, c'est du travail. Alors, il n'a pas vu, probablement, le fruit de son travail, bien sûr. Mais il se repose en paix, heureux d'avoir fait ce que Dieu voulait qu'il fasse. Personne ne peut dire, ah ben moi, je peux rien faire. Je peux rien faire parce que ben, j'ai plus les forces ou je ne sais pas. Mais non, c'est pas possible. C'est pas possible. Personne. Notre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Nos prières ne sont pas vaines dans le Seigneur. Un autre verset, Éphésiens 6, verset 18. Éphésiens 6 et verset 18. Là, l'apôtre Paul nous dit, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour tous les saints. Les saints, eh bien, c'est les enfants de Dieu, c'est les chrétiens. C'est vos frères, c'est vos sœurs. Hein. Et voilà une manière de travailler. Dieu nous demande de prier pour tous les saints. Ailleurs, il nous dit, en Galates, « Portez les fardeaux les uns des autres. Vous accomplirez la loi de Christ. » C'est ça, servir Dieu, accomplir la loi de Christ. C'est porter les fardeaux les uns des autres. Mais qu'est-ce que ça implique ? Ça implique qu'il faut aimer. Il faut s'intéresser. Il faut poser des questions. Comment tu vas ? Comment ça va ? Ça ne va pas, mais qu'est-ce qui se passe ? Ah ben, je vais penser à toi, je vais prier pour toi. Je m'intéresse aux autres. Et je les prends sur mon cœur. Je les porte. Je porte leur vie sur mon cœur. Ils souffrent, je souffre avec eux. Je prie, Seigneur, mais libère-les. Priez les uns pour les autres. Priez pour tous les saints. Quel travail, là ! Il y a du travail, hein ? Et parfois, on a envie de pleurer en se disant, ma vie de prière, elle est moribonde. Moribonde. C'est un rien. Servir le Seigneur. Œuvrer pour le Seigneur. Le Seigneur veut nous encourager à faire ce qui est bien. Ensuite, travailler à l'œuvre du Seigneur, c'est faire ce qu'il nous a dit à tous avant de nous quitter. Donc vous vous souvenez peut-être de ce verset, c'est Actes 1, verset 8, où Jésus a dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Ça, c'est le mandat que le Seigneur nous a donné. Et je crois qu'on l'oublie trop souvent. On desserre sa ceinture, on se met à l'aise, et puis on attend que le temps passe. Le Seigneur revient bientôt. Parfois, on trouve aussi des bonnes excuses. « Ah, mais je suis trop timide, moi. Je ne sais pas parler. Vraiment, comme Moïse, hein, j'ai la langue embarrassée, là, et je ne sais pas parler. » Vous savez, il y en a un qui a dit la même excuse. Il a dit ça à l'apôtre Paul. Il a dit « Ah, mais je suis trop timide, moi. » C'est Timothée. Et qu'est-ce que lui a répondu l'apôtre Paul ? Il lui a dit « Hé, mon fils, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, de puissance, d'amour et de sagesse. Ton excuse, elle n'est pas valable. » À partir du moment où on a le Saint-Esprit en nous, nous avons la puissance. Nous avons une puissance. Et on a lu dans Actes, là, hein, ce verset, hein, mais vous recevrez une puissance, et nous l'avons reçue. Nous l'avons. C'est le Saint-Esprit qui est puissant et qui est un esprit d'amour pour aimer les autres, de sagesse pour leur parler et de puissance, de force pour avoir ce qui vient de Dieu et toucher leur cœur. Et ça, c'est pas simplement en une personne ou 10 personnes ou une centaine ou 2000 sur la terre, mais c'est tous les enfants de Dieu. Tous les enfants de Dieu. Nous avons cela. Jésus a dit, vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Finalement, ce n'est pas une option. Alors peut-être, vous dites, mais moi je ne pourrai jamais témoigner au maire de la ville ou au président de la République. C'est impossible. Bien sûr, c'est impossible. Mais Dieu veut que vous puissiez témoigner à votre égal, à celui qui est en face de vous et qui vous ressemble finalement, avec qui c'est facile de témoigner. Et c'est pour cela que le Seigneur nous a laissés dans le monde, pour que nous soyons des témoins dans notre génération, avec les gens qui sont vis-à-vis de nous et qui nous ressemblent. C'est là où nous sommes des témoins. Si vous êtes un jeune, un ado, eh bien, c'est vers les jeunes que vous pouvez témoigner. Vous êtes la personne qu'il faut. Si vous êtes retraité, eh bien, vous êtes un témoin auprès des personnes âgées. Bien sûr, ça ne veut pas dire que, ce n'est pas exclusif, hein, mais le vis-à-vis de la génération, eh bien, facilite. Le courant passe plus facilement. Si on est une jeune mère, c'est hyper facile avec d'autres jeunes mères. Parce que ben, le lien, il est vite fait avec les enfants. Et voilà, c'est très facile. Si on est actif, mais on rencontre plein d'autres personnes qui sont actives, avec qui on peut avoir un très bon contact. Si on est passé par la maladie, par le cancer, mais qui de vous, qui peut mieux que vous parler avec quelqu'un qui passe par cela ? Les épreuves que vous avez vécues sont une grâce et une bénédiction qui vous donne de pouvoir être des témoins auprès de ceux qui vivent la même chose. La même chose. Et il y a plein d'exemples. Hein. Il y en a un qui me vient en tête. Une personne, un couple, donc dans la région parisienne, que je connaissais très bien, qui a perdu un enfant, donc qui a été mort-né. Et Dieu a placé, un autre couple qui avait vécu la même chose pour devenir une bénédiction pour eux. C'est ce que nous vivons, nos souffrances, nos épreuves, eh bien, sont le moyen d'être une bénédiction pour les autres. Alors déjà, ça nous aide à regarder ce que l'on vit aujourd'hui et qui est difficile avec un autre regard. Et on se dit, ben, peut-être qu'il y a autre chose que je ne vois pas encore, un bienfait. Un bienfait. Nous sommes des témoins avec nos vis-à-vis. Et Dieu sauve des personnes qui sont complètement différentes dans diverses, dans toutes les couches de la société, toutes les catégories sociales, toutes les générations. C'est évident qu'il y en a certains, ça ne va pas passer, ça ne va pas être facile. Ils ne vont pas écouter, ça ne le fera pas. Peut-être même, je ne peux pas être un bon témoin auprès de cette personne. Oui, mais il y en a d'autres où là, eh bien, c'est là où Dieu veut que je sois un témoin. Et il place des personnes devant nous qui sont les personnes à qui il veut que nous témoignions. Notre témoignage compte. Dans le texte de Acte 1, verset 8, il dit « Vous serez mes témoins à Jérusalem ». À Jérusalem, c'était là où ils étaient. En fait, Jérusalem, eh bien, ça représente votre cercle le plus près, vos proches, ceux qui sont dans le foyer, dans la maison, c'est la famille, c'est ceux qui sont très très proches. Vous êtes mes témoins là, auprès de vos proches. Vous serez mes témoins en Judée, ça c'est à l'extérieur. On quitte le cercle et on va un peu autour, hein. Et voilà, Dieu veut qu'on soit des témoins auprès des personnes que nous rencontrons, des connaissances, des collègues, des amis, le dentiste, je ne sais pas. Voilà, Dieu veut qu'on soit un témoin. Vous serez mes témoins dans la Samarie. La Samarie, c'est peut-être ceux avec lequel vous n'avez pas trop d'affinité. Vous savez, les Samaritains et les Juifs, hein, ce n'était pas le grand amour. Et pourtant, il dit aux Juifs, à des chrétiens juifs, là, vous allez les témoigner aux Samaritains. Et c'est possible aussi que le Seigneur nous pousse vers des personnes vers qui on n'a pas trop d'affinité. Mais on est un témoin. Vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Alors le Seigneur, bien sûr, envoie et peut envoyer en Arabie Saoudite. Mais peut-être que l'étranger, hein, qui vient des extrémités de la terre, ben, il est juste là. Hein. C'est celui qui est juste à côté de chez vous. Hein, et là aussi, c'est témoigner jusqu'aux extrémités. Hein. Témoigner pour le Seigneur. Ça, c'est notre mandat à tous. Si je reprends Luc 12, verset 35, il dit que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Et je joins ici cette troisième recommandation hein, dont je viens de parler finalement, c'est d'avoir sa lampe allumée. Est-ce que nos lampes sont allumées ou est-ce que nos lampes sont éteintes? Vous savez, dans les Écritures, le Seigneur dit qu'il n'éteindra pas le lumignon qui fume encore. Et il n'y a aucun enfant de Dieu, aucun croyant qui a une lampe complètement éteinte. Non, ce n'est pas possible parce que c'est le Saint-Esprit en nous. Hein. Et si eh bien, le lumignon est là, parce qu'on a reçu Jésus-Christ dans son cœur, eh bien, et que nous, on veut faire ce qui est bien, il peut souffler et ranimer la flamme. Il peut réveiller en nous cette soif d'être un témoin de Jésus-Christ. C'est possible, c'est possible. Il suffit de le désirer et il suffit de le demander. Seigneur, voilà, pardonne-moi. On vient de parler de repentance là dans ces dernières semaines, dans les derniers messages avec l'Apocalypse. Mais peut-être c'est ça que le Seigneur nous demande encore ce matin, de dire Seigneur, pardonne-moi de ne pas avoir été le témoin que tu voulais que je sois. Matthieu 5, 14 à 16. Matthieu 5, 14. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Là, on retrouve la lampe qui brille, mais d'abord comme une ville sur une montagne. Là, on se représente bien le lac de Galilée, et puis vous voyez une ville là, sur le bord, dans la pénombre, dans la nuit, qui brille, et qui est comme un repère lumineux. Et nous sommes des repères pour ce monde qui vit dans les ténèbres. Nous pouvons être le repère qui attire. Est-ce que nous le sommes? Et puis nous sommes cette lampe qui est dans la maison. Et de nouveau, on retrouve l'idée des proches, de la famille. Est-ce que nous brillons, ne serait-ce que là, dans notre famille? Le boisseau, c'est un récipient cylindrique dans lequel on mettait les farines, les céréales, ce genre de choses. Vous imaginez une lampe, prenez le boisseau, vous le retournez et vous le mettez dessus. Ben, ça ne sert plus à rien. C'est une lampe inutile. Et le Seigneur ne veut pas qu'on soit des lampes inutiles. Il nous a fait lampe par le Seigneur Jésus. Hein, on est la lumière du monde pour que ben, on retire le boisseau et qu'on puisse briller du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on a ça à cœur? Est-ce que on a voilà des personnes on prie régulièrement pour elles? On veut développer des amitiés. On veut tisser des liens, faire des bonnes œuvres. Parce que ça tisse des liens aussi. Aimer son prochain. Et puis aussi, partager. Hein? Est-ce qu'on a un traité? Il y en a là. C'est une bonne occasion là, hein, pour le week-end prochain. Est-ce qu'on en a dans notre sac? Est-ce qu'on a ne serait-ce qu'un plan du salut quelque part? Dans la voiture? Ou Non. Dieu veut qu'on soit des témoins. Et c'est important. C'est vraiment important. On ne le mesure pas parce que ben, on vit et puis voilà quoi. Hein. Pendant les travaux, il y a quelques mois, là, il y a deux voisines qui sont entrées. Et donc je connaissais l'une, je ne connaissais pas l'autre. Et nous sommes montés en haut sur la terrasse hein, où nous avons discuté pendant un quart d'heure, 20 minutes. Hein, et celle que je ne connaissais pas n'allait pas très très bien. Et je l'ai encouragée à prier, à s'approcher de Dieu, à dire Dieu est personnel, vous pouvez venir à lui, lui demander, etc. Et peut-être deux mois plus tard, l'autre voisine est venue me dire qu'elle était décédée. C'est une personne qui habitait là, un peu plus loin. Et bien, elle n'était pas âgée. Hein. Et on se dit, mais ça rend très concret. C'est que nous sommes ici avec des choses qui sont sérieuses. On parle de la vie, on parle de la mort. Et Dieu veut qu'on soit des témoins. Il veut qu'on puisse partager la bonne nouvelle. Partager la bonne nouvelle. Qu'on soit actif dans notre société. Que nos reins soient sains, que nos lampes soient allumées et qu'on soit veillant, veillant et priant. Alors, eh bien, quand Jésus paraîtra, il est dit, nous aurons de l'assurance. Nous aurons de l'assurance. Nous n'aurons pas la honte d'être trouvés, éloignés de cœur avec lui. Parce que c'est ça, éloignés de cœur avec lui. Je vais conclure par la prière. Seigneur éternel, nous te bénissons et nous te remercions parce que c'est toi qui nous fais la grâce d'être sans cesse réveillés, touchés, Seigneur, et pour pouvoir te servir et te plaire. Seigneur, nous te bénissons de nous avoir donné la vie, le pardon, et d'avoir fait de nous tes ambassadeurs. Seigneur, pardonne notre péché lorsque nous n'avons pas témoigné alors que nous aurions pu. Pardonne nos péchés quand nous étions indifférents alors que toi tu voulais que nous laissions quelque chose. Pardonne Seigneur si nous ne prions pas suffisamment Seigneur et si nous délaissons ceux qui nous entourent. Pardonne Seigneur si nous ne veillons pas, nous ne prions pas et nous tombons de chute en chute. Seigneur, pardonne si nous ne lisons pas la Bible comme nous le devrions pour nous nourrir de toi et avancer avec toi. Seigneur, pardonne nos péchés, Seigneur. Et je veux te prier pour tous mes frères et sœurs et te demander que tu donnes un zèle, un regain de service, de joie. Seigneur, réveille les cœurs, s'il te plaît. Réveille nos cœurs. Père, nous te bénissons parce que tu es venu et tu nous as donné la vie pour donner la vie aux autres. Et combien nous te demandons que tu sauves des âmes, que tu ouvres les yeux des pécheurs. Seigneur, nous ne pouvons pas faire cela, mais nous croyons que tu vas le faire. Nous le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen.